Hello everyone.
Bonjour tout le
I
monde.
do have a couple of
J'ai
announcements today.
quelques annonces aujourd'hui.
Geneva from Georgia is
Geneviève de
now
la
serving as
Georgia
elder in the
va maintenant
Georgia area.
servir en tant qu'elle
And
ancien
Marie from
dans la
New
région de
York will
Georgia
now
et
be
Marie
serving
de New York va
as
maintenant
elder in
servir
that area.
en ancien dans
And I
cette
do have an
région.
announcement
J'ai
about
aussi une
Feast of
annonce à propos de la
Tabernacles.
fête des tabernacles.
The 2013 Feast of Tabernacles registration website.
Le site web pour l'enregistrement de la fête des tabernacles de 2013 sera disponible à partir de mardi. Un mail sera envoyé mardi à tous les membres baptisés pour qu'ils enregistrent les informations nécessaires. Pour certains membres, ces mails peuvent apparaître dans dans la zone spam ou dans vos corbeilles. Faites attention. Donc, vérifiez que vous les avez reçus. Si vous n'avez pas reçu d'email à la fin de mercredi et que vous avez l'intention d'assister à la fête des tabernacles, il est bon d'informer un de vos anciens. Si vous n'avez pas l'intention d'assister à une des fêtes, à une des sites cette année, il est important que il y a une option, vous pouvez le faire savoir sur le site. Tous les membres, si vous avez l'intention d'assister ou non, il est important que vous enregistriez vos détails afin que nous puissions planifier pour le futur. Avec cela, maintenant, nous allons commencer le service aujourd'hui. Je voudrais dire la bienvenue à tout le monde. C'est le sabbat de Dieu. C'est un moment où nous venons devant Dieu. C'est un moment où nous venons devant lui pour apprendre plus sur ce qu'il a à nous enseigner à propos de son plan, à propos de lui-même et de son fils Jésus-Christ. Quand nous regardons autour de nous, le monde qui nous entoure aujourd'hui, si Dieu et son Fils ne décidaient pas d'intervenir, nous n'aurions qu'un moment très court pour vivre sur la face de cette terre. Parce que, mes frères, quand nous regardons autour de nous, les possibilités que l'homme ont pour la destruction de cette planète, nous savons que ça va arriver. Ça veut dire que soit Dieu doit délivrer son peuple, ou alors les gens seront complètement détruits de la surface de la terre et aucun homme ne sera sauvé. C'est juste un fait de la vie aujourd'hui. Et ça, c'est le monde où vous et moi, nous vivons aujourd'hui. Et lorsque nous regardons ce qui est arrivé dans les jours de Noé, ils n'avaient pas compris la destruction qui allait leur tomber dessus. Je pense que c'était pour pratiquement 120 ans que Noé a construit son bateau. Je suis sûr que on se moquait de Noé à cette époque, à propos de la tâche qu'il avait entreprise, parce qu'il n'avait pas plu dans les jours de Noé. Je suis certain qu'il était l'objet de blagues, de plaisanteries, d'accusations. Je suis sûr qu'ils se sont bien amusés à son sujet. Mais ils ne comprenaient pas qu'il y avait une destruction imminente sur eux. C'est la même chose aujourd'hui. C'est le monde dans lequel vous et moi, nous vivons. Les gens entendent la parole, les paroles à propos des armes qui sont disponibles dans le monde et qui ont la capacité de détruire tout ce qui est sur la terre. Et nous vivons sur cette terre avec cela, et nous ne comprenons pas que c'est vraiment imminent, cette destruction, à moins que le Dieu de cet univers intervienne. Et ça, c'est vraiment un fait. Donc, à un moment, Dieu devra faire une distinction. Et Dieu, il faudra qu'il fasse une différence avec son peuple, exactement comme il l'a fait dans les jours au temps de Moïse. Dieu nous dit que ces choses sont écrites pour vous et moi, sur qui la fin de l'âge va venir. Et toutes ces écritures qui sont mises ensemble décrivent, peignent une image au cours du temps. Elles décrivent une image de ce que Dieu est en train de faire et comment il le fait. Et c'est pourquoi nous venons et nous rassemblons le jour du sabbat de Dieu en son jour saint, parce que c'est la vérité présente qui vous éclaire, vous et moi, concernant là où Dieu nous emmène. Et vous savez et vous croyez que c'est ici l'Église de Dieu et que Dieu conduit et guide son Église, ou alors vous ne le croyez pas. Mais Dieu dépeint une image et ça fait vraiment une différence, car Dieu a un plan pour que l'homme, au cours du temps, et il a un grand trône blanc, si vous le croyez, à moins qu'il y ait un péché impardonnable dans votre vie qui a été commis contre Dieu. Donc ça n'a pas vraiment d'importance à ce moment. Dieu dit qu'il y en aura qui seront vivants quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre, et que Jésus-Christ reviendra et arrêtera l'homme, l'empêchera de se détruire complètement lui-même, de s'anéantir. Et s'il ne choisissait pas de le faire, une totale destruction surviendrait. Et avec cela en tête, allons voir nos Bibles dans le livre de l'Exode, et on commence au milieu de l'histoire lorsque Dieu délivrait son peuple au temps de l'Égypte. Et commençons l'histoire, l'Exode 3 et verset 1, et voyons ce que nous pouvons apprendre et ce que nous pouvons appliquer sur notre vie, à notre vie, dans son Église, à la fin des temps, sur qui la fin des temps est arrivée. Quand Dieu devra faire une différence, il a fait une différence au temps de Moïse, et il fera une différence à la fin de cet âge, mes frères. Et ça, c'est le titre du sermon aujourd'hui, faire une différence. Et Dieu fera, réalisera cela. Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Alors il regarda, et voici, le buisson était en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Et Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire, et pourquoi ce buisson ne brûle pas. Et quand l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et encore, il ajouta, c'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il est notre Dieu, mes frères, c'est le même Dieu qui parlait à Moïse. Que vous croyez que c'est l'Église de Dieu, ou alors vous ne le croyez pas. Mais c'est le même Dieu qui parlait à Moïse. Et Moïse cacha son visage et il craignait de diriger ce regard vers Dieu. Et l'Éternel lui dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et nous savons le symbole ici entre l'Égypte et ce que cela représente. L'Église de Dieu a été amené à travers cela au cours du temps. L'Église a été à travers cela au cours du temps, et qui est l'Égypte, spécialement aujourd'hui, de sortir du péché, parlant de la délivrance, la délivrance d'un système mondial, le système de l'homme. Et le pharaon, c'est comme une représentation de Satan et du monde de Satan. C'est comme si vous et moi, nous étions en captivité, et nous y sommes. Nous sommes en servitude, nous sommes dans un système qui n'est pas le système de Dieu, mais Dieu va faire une différence dans le futur proche. C'est pourquoi vous et moi, nous attendons cela avec impatience. Et l'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri. Et nous sommes opprimés. J'ai entendu leur cri à cause de leurs oppresseurs. Et de la même façon, nous crions, notre délivrance ne peut pas attendre plus longtemps. La plupart d'entre nous réalisons ce que cela veut dire. Et c'est comme en leur jour, Dieu leur dit de les amener dans une terre qui a flow with le lait et le miel, dans une terre promise. C'est symbolique de ce qui va arriver quand Jésus-Christ va revenir. Ce sera le commencement d'une nouvelle création, d'un nouveau monde, une nouvelle terre. Et c'est comparé à une terre pleine de lait et de miel parce que à cause de ce qui va arriver, ce qui va commencer à arriver pour 1000 ans, de faire de cette terre, encore une fois, de la changer, qu'elle redeviendra comme le jardin d'Éden, jusqu'au moment où le grand trône blanc prendra place à la fin. Et ça décrit une image merveilleuse. Une image que nous regardons et nous espérons et nous attendons avec impatience. Nous ne vivons que par la foi maintenant. Verset 9. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Et Dieu le voit aussi pour vous et moi. Il dit, maintenant va, je t'envoie vers le Pharaon, que tu fasses sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites, les enfants d'Israël, à sortir d'Égypte, l'Égypte spirituelle. Et quand nous comprenons la signification d'Égypte à notre temps, que ça représente entre vous et moi et le monde entier, le système de Satan, nous attendons que Dieu nous délivre de ce système, que le gouvernement de Dieu vienne et s'établisse sur la surface de cette terre, pour toutes les populations, pour délivrer tout le monde de l'oppression, toutes les populations de cette terre. Verset 11. Et Moïse dit, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Nous connaissons l'histoire à propos de Moïse et nous savons comment il a été mis dans un panier, qu'il a été élevé dans un palace. Nous savons comment est-ce qu'il a tué un Égyptien. Je suis sûr que c'était dans son esprit quand ces choses ont été dites à Pharaon. Et Moïse a s'est enfui pour sa vie, pour se sauver. Donc Moïse dit, qui je suis pour aller devant le Pharaon, que je puisse moi-même faire sortir les enfants d'Israël? Pourquoi moi, en d'autres termes? Je peux poser la même question, pourquoi moi? Verset 12. Alors Dieu dit, je suis sûrement avec toi. C'est ce que Dieu lui dit. Est-ce que vous croyez que Dieu est avec nous? Dieu vous a appelé, vous a ouvert votre pensée, et vous savez voir un plan extraordinaire sur la face de cette terre. Et ce sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie, que tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, que vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Et Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de votre père m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. C'est la même chose à la fin de cet âge. Je suis a envoyé sa parole pour délivrer un peuple et envoie son fils pour faire une différence sur cette terre. Nous n'avons que peu de temps. Verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de votre père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Donc je suis m'a envoyé à la fin d'un âge. Juste comme il l'a fait à cette époque, pour délivrer un peuple. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. Et verset 16, « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de votre père, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vraiment visité, j'ai vu ce que vous ont fait les Égyptiens en Égypte. Et j'ai dit, et on est comme en Égypte dans notre captivité. C'est sûr que nous avons plus de liberté qu'ils n'en avaient à l'époque. Mais soyez certains que nous sommes en captivité dans ce monde. Et je vous ferai monter de l'Égypte et vous êtes dans la misère vers le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héréviens, des Hébusiens, dans un pays découlant de lait et de miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte et vous leur direz. Donc Dieu leur donne des instructions. L'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu au devant de nous, nous a rencontrés. Maintenant, accorde-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Et notez bien le verset 19. C'est un verset très important. C'est très important de voir ce qui est dit et comment ça va arriver. Mais je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra pas d'aller. Non, pas même sous l'emprise d'une main puissante. J'étendrai donc ma main et frapperai l'Égypte par toutes sortes de miracles que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera partir. Prêtez attention à comment et pourquoi il dit ces choses et comment elles vont arriver. Je ferai en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chacun demandera à sa voisin, à sa voisine, des objets d'or et des vêtements d'argent, et vous mettrez sur vous et vos filles, et vous enlèverez cela aux Égyptiens. Et nous savons l'histoire, nous la connaissons. Nous savons que cela a eu lieu. Exode, chapitre 4. Premier verset. Il dit des signes miraculeux pour le Pharaon. Et Moïse répondit, et ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, suppose qu'ils disent, l'Éternel ne t'est pas apparu. Donc l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et Moïse répondit, un bâton. Et l'Éternel dit, jette-le par terre. Dieu lui dit, donc Moïse le jeta par terre et il devint un serpent. Et notez, et Moïse s'enfuit de devant le serpent. Je ne peux pas imaginer que c'était juste un petit serpent. Ce bâton s'est transformé, j'imagine, en un énorme serpent féroce. Que Moïse n'avait jamais vu quelque chose de pareil. C'est ce que Dieu avait fait. Et notez bien ce que Dieu lui dit. Étends ta main et saisis-le par la queue. Là, je suis sûr que ce serpent. Tous ceux qui savent quelque chose, quoi que ce soit sur les serpents, ils savent qu'on n'attrape pas un serpent par sa queue. C'est l'endroit le plus dangereux pour attraper un serpent. Il faut toujours les attraper par derrière la tête pour empêcher de se faire mordre. Mais Dieu dit à Moïse de l'attraper par la queue. Donc ça, c'est comme un défi pour lui, c'est effrayant. Et donc Moïse étendit sa main et il obéit. Il lui a fallu pas mal de courage. Il a fallu que Moïse fasse confiance à Dieu sérieusement pour attraper ce serpent. Et on voit que dès qu'il toucha le serpent, il redevint comme un bâton. Donc un événement très impressionnant. Ça a été fait pour une raison précise. C'était fait pour renforcer Moïse. Pour savoir à qui il avait affaire. Et Moïse apprenait à faire confiance. Il avait besoin de faire croître sa confiance à travers cette expérience. Parfois, on lit ces écritures, on ne réalise pas réellement ce qui se passe, ce qui est dit, ce qui est décrit. On voyait que Moïse a eu peur parce qu'il s'est enfui. Mais et ce serpent, si c'était un petit serpent, je ne pense pas que Moïse aurait couru et se serait enfui. Je ne pense pas que c'était le genre de serpent qui était décrit. Si celui-ci était un serpent féroce, c'est ce que le bâton a été transformé dans dans un serpent féroce. Verset 5. C'est afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, est apparu. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit la main dans son sein. Puis quand il la retira, sa main était couverte de lèpre blanche, comme de la neige. Il dit, remets ta main dans ton sein. Il la remit. Puis il la retira de son sein et elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas ainsi, dit l'Éternel, et ne prêtent pas attention au premier signe, ils croiront certainement à ce dernier signe. S'ils ne croient pas, même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du Nil. Tu la répandras sur la terre sèche, et l'eau que tu auras prise du Nil deviendra du sang sur la terre sèche. Et l'Éternel dit à Moïse, Exode 4, verset 27. C'est là où nous trouvons cela. Et l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Donc il partit pour le rencontrer à la montagne de Dieu et il l'embrassa. Donc Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné d'opérer. Et Moïse et Aaron s'en allèrent et rassemblèrent tous les anciens d'Israël. Et Aaron rapporta toutes les paroles de l'Éternel avait dites à Moïse, et il opéra les signes aux yeux du peuple. Donc, Moïse lança ce bâton sur le sol et devint ce serpent féroce. Et il mit sa main dans son sein et il devint lépreux. Et puis il l'a remis dans son sein et elle redevint normale. Donc nous voyons que Moïse a démontré tous ces signes que Dieu lui avait donnés pour aller devant le Pharaon. Et notez le verset 31. Les peuples crurent. Quand ils apprirent que l'Éternel avait visité les Israélites, qu'il avait vu les misères, leur misère, ils s'inclinèrent et se prosternèrent en adoration. Exode 5, premier verset. C'est la première rencontre avec le Pharaon, Moïse et Aaron avec le Pharaon. C'est donc un effet très significatif sur le peuple, parce que la façon dont ça a eu lieu, à cause de ce qui arriva, nous lisons à travers ce compte-rendu, on ne réalise pas comment ça arriva, ce qui arriva réellement, tous ces événements qui ont eu lieu. Il dit que Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et ils lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. » Le Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir Israël ?» C'est la question qu'il posait à Moïse et à Aaron. Et Pharaon dit, « Je ne connais pas l'Éternel. Ainsi, je ne laisserai pas partir Israël. » Alors il dit, « Le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous. » Vous pouvez imaginer comment ça, de quoi ça avait l'air pour le Pharaon. Je peux juste imaginer qu'est-ce qu'il a pensé. Ils pensaient probablement qu'ils avaient perdu la tête. Mais ils disent que ce que Dieu leur avait dit de faire.
And they said, please.
Mais ils dirent,
they did what God said, do.
De faire ce que Dieu leur avait dit de faire.
And they said, please.
Accorde-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Vous pouvez imaginer ce que le Pharaon pensait, de quel genre de Dieu est-ce qu'ils étaient en train de parler. Il tomberait sur eux avec des pestes et l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Et que vous voulez aller dans le désert, qu'ils se détournent de leur travail. C'est ce qu'ils pensaient. Retournez à votre boulot. Et le Pharaon dit, c'est maintenant où cette population dans le pays est ici et vous voulez les empêcher de travailler et les laisser se reposer de leurs travaux. Donc le même jour, le Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques. Donc, il n'a pas vraiment aimé ce que Moïse et Aaron leur disaient. Il dit qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Et vous les imposerez, leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous ne la diminuerez en rien. S'ils ont le temps d'aller dans le désert et de se reposer, ils ont le temps d'aller rassembler de la paille. Ils criaient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Accabler ces gens de travail, qu'ils aient par là de quoi s'occuper et ne prennent plus garde à des faussetés. C'est ce qu'il pensait. Des faussetés, des mensonges. Verset 10. Les inspecteurs du peuple et les commissaires allèrent dire au peuple, ainsi parle le Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Donc, on peut voir, il va falloir que nous fassions des briques maintenant et aussi ramasser la paille. Et il dit, allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car on ne diminuera en rien votre taille, votre tâche. Donc le peuple se dispersa dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Et les inspecteurs les pressaient en disant, finissez votre ouvrage journalier comme quand il y avait de la paille. Donc c'est juste comme nous dans l'Église de Dieu. Ça n'est pas aussi facile que ça l'a été dans le passé. On a été persécutés. Vous avez été persécuté. Et une analogie, une comparaison qui est appropriée avec notre temps, ça devient plus difficile pour tout le monde. Les circonstances ne sont pas faciles. C'est comme faire des briques sans la paille. C'est pas aussi facile qu'on se trouve dans cette oppression, la persécution, les ridiculiser, les moqueries. Tout ce qui arrive contre le peuple de Dieu, à votre travail, la famille, peut-être votre femme, votre mari, et vous sentez comme si vous faisiez vos briques sans la paille. C'est un peu plus difficile que ça l'était dans le temps de l'époque de Philadelphie, l'époque de l'amour fraternel. C'était relativement plus facile durant cette époque. De garder les lois de Dieu, d'aller à l'église, d'avoir un bon moment ensemble, jouer au ballon, chanter aussi. Toutes ces choses sont finies, elles sont passées. C'est un peu plus difficile. On n'a même pas les moyens de chanter ensemble. Encore moins de jouer au ballon. Donc c'est un peu différent. C'est comme si nous faisions des briques avec de la paille. Verset 14. On frappait même les commissaires des Israélites établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. Pourquoi disait-on, n'avez-vous pas fini de pétrir hier et aujourd'hui le nombre de briques qui vous étaient imposées comme avant? Donc, on peut voir que le Pharaon avait rendu les choses beaucoup plus difficiles pour eux. Et on se trouve à la fin d'un âge avec Satan qui s'est vu autorisé à opprimer l'Église de Dieu. Et nous avons besoin de comprendre que nous sommes dans une guerre spirituelle d'une ampleur qu'on ne comprend pas. Et la comparaison est la même. C'est comme de faire des briques avec sans la paille. C'est un peu beaucoup plus difficile. Et regardez ce qui arriva. Et les commissaires des Israélites, allèrent se plaindre au Pharaon et lui dire. Donc ça, c'est les gens qui sont en charge, qui contrôlent les gens. Et ils vont au Pharaon et il leur dit, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? Pourquoi tu fais ça? Il n'y a pas de paille à tes serviteurs. Et l'on nous dit, faites des briques. C'est la même ère, la même chose avec vous et moi, on fait des briques. Sans la paille. Et alors les serviteurs sont battus. Et nous, on se fait battre aussi dans ce monde. Parce que nous croyons que Dieu conduit cette église, son église. Et ça ne prend pas sa place dans le monde. Ça ne va pas bien avec le monde. Mais la comparaison est la même. À leur temps, leur époque, c'est une guerre spirituelle à notre époque. Nous sommes dans une bataille. Il y a des victimes quand il y a une guerre. Mais il dit, c'est ton peuple qui est en faute. Et il répondit, vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, alors allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez à votre tâche, on ne vous donnera pas de paille, et vous délivrerez, vous livrerez la même quantité de briques. Vous aurez des briques à fabriquer sans la paille à la fin de cet âge. Il n'y aura pas de paille qui sera donnée à vous ou à moi jusqu'à ce que tout soit fini. Verset 19. Et les commissaires des Israélites virent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne diminuerez rien du nombre de briques à livrer chaque jour. Donc vous et moi, on a besoin de reconnaître où nous sommes dans le temps. Nous avons besoin de reconnaître que nous avons des problèmes. Si Dieu n'intervient pas dans ce monde, et s'il ne le fait pas, nous allons devoir faire des briques sans paille jusqu'à ce que nous mourions. C'est juste une réalité. Verset 20. Et sortant de chez le Pharaon, Ils rejoignent Moïse et Aaron qui les attendaient. Et regardez ce qui arriva. Et ils leur dirent, ils parlent de Moïse et d'Aaron, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Ce
ne
sont pas des choses gentilles qu'ils disent. Parce que, remarquez, c'est une accusation. Parce que vous nous avez rendus odieux au Pharaon et à ses serviteurs. Aux yeux de ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous tuer. C'est ce qu'il leur a dit à Moïse et à Aaron. Parce qu'ils ont été devant Pharaon. Et ce qui était arrivé. Et ils savaient qu'ils avaient des problèmes. Et ils pensaient qu'ils allaient mourir à cause, à la main des commissaires. Moïse, qui avait, en fait, Moïse et Aaron qui avaient fait exactement ce que Dieu leur avait dit de faire devant le Pharaon. Ils avaient déclaré les paroles de Dieu devant le Pharaon. Et c'est ce qui est arrivé. Ils faisaient leurs briques sans paille. Verset
22.
Il nous a été dit, à vous et à moi, que Jésus-Christ allait revenir sur cette terre et ce système nous fait faire des briques sans paille. Ce système. Et nous savons qu'à un moment ou à un autre, Dieu va faire une différence. Et il va agir pour délivrer ce peuple, juste comme il l'a fait au temps de Moïse. Verset
22.
Remarquez ce que Moïse dit à Dieu. Et Moïse retourna à l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Et on peut appliquer cela à notre situation. Pourquoi les choses sont arrivées de la façon dont elles sont arrivées? C'est pas arrivé de la façon dont on espérait. C'était différent. Je peux vous assurer. La raison pour laquelle Moïse est allé devant Dieu, c'est parce qu'il pensait pas. Il voyait que les choses n'étaient pas arrivées de la manière dont il s'y attendait. Donc Moïse retourne vers Dieu. Et il pose les questions. Pourquoi? Pourquoi t'as apporté toutes ces difficultés sur ton peuple? Regardez ce qu'il dit aussi. Pourquoi m'as-tu envoyé? Pourquoi tu m'as envoyé au Pharaon pour lui dire ces choses? Verset 23. Depuis que je suis allé vers le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et c'est la même chose. Nous crions de la même manière aujourd'hui, après l'apostasie. Après que Dieu ait réveillé son peuple. Nous n'avons eu que du mal qui a été fait au peuple de Dieu, à l'Église de Dieu. C'est exactement ce que c'est. C'est un monde complètement malade. Donc Dieu est en charge. Et la Syrie, qui est le système de ce monde et qui maintient le peuple de Dieu en captivité. Remarquez le reste. Et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. Donc, on peut voir le premier événement qui a lieu. Moïse Et Moïse retourna vers Dieu et lui dit, « Tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Mais on se souvient ce que Dieu a dit à Moïse au début, ce qui devait être fait. Mais parfois on ne voit pas toutes ces choses jusqu'à ce que Dieu nous les révèle. Dieu a un plan. Il avait un plan pour délivrer son peuple. On peut dire, je pense que c'est bon de dire à cette première étape que Moïse avait une image négative aux yeux du peuple et devant Pharaon. Il a fait son boulot juste de la manière dont Dieu lui avait dit de le faire. Et le voilà devant le peuple. Et ils n'étaient pas contents avec lui. Ils n'étaient pas contents de l'Église de Dieu, de nous, à la fin de cet âge. De dire que Jésus-Christ va revenir sur cette terre. On n'a pas toujours une image positive. Vous croyez, soit vous croyez que Dieu conduit son Église, ou soit vous ne le croyez pas. Donc nous savons que Dieu ne peut pas mentir. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Que Moïse devait aller et retourner vers Dieu et poser cette question. Moïse retourna et demanda. Il dit à Dieu, tu n'as pas du tout délivré ton peuple. Donc ça n'est pas arrivé de la façon dont Moïse avait espéré. Et ça n'allait pas arriver de la façon dont il espérait. Donc Dieu n'avait pas fait les choses comme Moïse l'avait espéré, et donc Moïse questionnait Dieu. Regardez Exode 6. Le premier verset. Donc l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. Car c'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir ton peuple et sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. Et Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu par eux sous mon nom, Seigneur, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné, où ils ont émigré, là où ils étaient des étrangers. Et j'ai aussi entendu le soupir des Israélites et des Égyptiens que les Égyptiens asservissent, et je me suis souvenu de mon alliance. Mes frères, Dieu n'oublie pas ses promesses. Les choses peuvent ne pas arriver comme nous pensons qu'elles devraient arriver. Mais Dieu dit qu'il a entendu les soupirs, les douleurs. Il connaît nos souffrances, notre servitude à ce système, comme au temps de Pharaon. Et Dieu dit, il s'est souvenu, il se souvient de l'alliance qu'il a avec nous, et il le fait. C'est pourquoi dites aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. Il va faire ça à la fin d'un âge. Il dépeint une image de la manière dont il va le faire à la fin de cet âge. Il nous donne une compréhension de la façon dont Dieu travaille. Et il dit, je vous prendrai comme mon peuple et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et nous savons quand ça sera pour eux. Et vous saurez, il leur dit, vous saurez que je suis votre Dieu et que je vous ai délivré du fardeau des Égyptiens. Et ils le savaient, ils l'ont vécu d'une manière physique, matérielle, dans leur histoire. Nous savons que Dieu fit ce qu'il dit qu'il allait faire. Et je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Et je le donnerai en possession. Moi, je suis l'Éternel. Donc Moïse parla aux Israélites. Mais remarquez ce qui se passe. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Ils n'étaient pas contents avec lui. À cause de leur impatience et de leur dure servitude. Les choses physiques qui leur avaient été faites, et Dieu leur avait dit à part Moïse, il allait les délivrer. Nous trouvons maintenant que leur esprit était se languissait dans la douleur. Ils étaient contre Moïse et probablement contre Dieu. Verset 10. L'Éternel parla à Moïse, disant, « Va, parle au Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse partir les Israélites hors de son pays. » Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, alors que les Israélites ne m'ont pas écouté. Donc Moïse va et retourne vers Dieu et va lui dire, ils n'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui ai des lèvres malhabiles? Vraiment, il n'avait pas une image positive. Car j'ai des lèvres malhabiles. Et une autre traduction dit que et Moïse parla devant l'Éternel et dit, vois les fils d'Israël. Comment est-ce que Pharaon m'écoutera et les enfants d'Israël parce que je ne suis pas éduqué de mes lèvres et de ma bouche. Il n'était pas un bon orateur en quelque sorte. Il savait qu'il n'était pas convaincant. Il n'avait pas la qualité de parler proprement et son allocution n'était pas claire. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et il leur donna des ordres au sujet des Israélites et du Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites du pays d'Égypte. Donc nous pouvons voir la première plaie où les eaux deviennent sang. Et la deuxième plaie, nous voyons la plaie des grenouilles. Donc, Exode 8, verset 12. La troisième plaie, l'époux. Et c'est sur cela que nous voulons maintenant nous concentrer. Et au-delà, ce qui va suivre, la troisième plaie. Donc l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre, donc elle devienne des poux dans tout le pays d'Égypte. Et ils firent ainsi. Aaron étendit sa main et avec son bâton et frappa la poussière de la terre, et elle devint des poux sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière de la terre devint des poux dans tout le pays d'Égypte. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Tu peux imaginer ça? Avec tous ces poux partout sur nous, sur toute la terre, sur, dans tout le pays, sur tous les gens. Et verset 14, on peut voir les choses commencèrent à changer. Quelque chose commençait à faire une différence. Il dit que les magiciens s'employèrent dans leurs pratiques occultes pour produire des poux, mais ils ne le purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les bêtes. Et alors ils ne pouvaient pas. Il y avait des poux sur les hommes et sur les bêtes. Et les magiciens disent au Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Quelque chose changeait. C'est le doigt de Dieu. Et le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit l'Éternel. Donc les choses commençaient à changer. Et elles vont commencer à changer pour vous et moi à la fin de cet âge, mes frères. Dieu va faire une différence. Verset 16. On trouve la quatrième plaie, les mouches. Lève-toi de bon matin et prépare-toi devant le Pharaon. Présente-toi devant lui lorsqu'il sortira près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses point partir mon peuple, je vais lâcher contre toi des mouches, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre ta maison. Et les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, ainsi que le sol sur lequel ils se trouvent. Et verset 18, Dieu fait une différence. Et en ce jour-là, je ferai une distinction pour le pays de Goshen. Donc Dieu est en train d'agir maintenant, de faire cette différence. Où se trouve mon peuple? Il n'y aura pas de mouches afin que tu reconnaisses que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Donc, il va en être ainsi dans notre temps, à notre époque d'aujourd'hui. Dieu va faire une différence. Verset 19. Je mettrai une démarcation entre mon peuple et ton peuple. Et Dieu va faire la même chose à la fin de cet âge. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il fit une masse de mouches venimeuses dans le palais du Pharaon et dans la maison des serviteurs et dans tout le pays d'Égypte. Le pays fut dévasté à cause des mouches. Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Et Moïse dit, remarquez comment il le dit, retournez un peu en arrière, dans le pays, ça, en d'autres termes, il ne les laissera pas partir. Ils allaient les laisser sacrifier à leur Dieu, mais dans le pays, pas en dehors. Et Moïse dit, il n'est pas régulier d'agir ainsi, car nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en honneur aux Égyptiens. Si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices dont ils ont horreur, ne nous lapideront-ils pas? Et donc, on se retrouvait avec un problème entre les religions. Le Dieu, les dieux qu'ils adoraient et le Dieu que Moïse adorait et servait. Donc, Moïse lui disait cela. Ils sont prêts à nous lapider si on fait ça devant eux. Et Moïse dit, nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Donc Pharaon dit, moi, je vais vous laisser partir pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert, seulement vous ne vous éloignerez pas en y allant. Intercédez pour moi. Et il demandait à Moïse de faire des compromis, d'aller devant son Dieu et de compromettre, de faire des compromis en quelque sorte. Verset 25. Moïse répondit, voilà, je sors de chez toi et j'intercéderai auprès de l'Éternel demain. Les mouches s'écarteront du pays du Pharaon, de ses serviteurs, de son peuple, mais que le Pharaon ne continue pas à nous tromper en refusant de laisser partir le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Donc Moïse sortit de chez le Pharaon et il intercéda auprès de l'Éternel. Et l'Éternel agit selon la parole de Moïse et les mouches s'écartèrent du Pharaon et de ses serviteurs et de son peuple et il n'en restant pas une seule. Mais le Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et ne laissa point partir le peuple. Et donc, ça donne toujours une mauvaise image à Moïse. Pour sûr, Moïse, devant son peuple, il regardait toutes ces choses. Ils voyaient toutes ces plaies, les unes après les autres. Ils étaient un peu plus attentifs, parce qu'ils n'étaient pas affectés. C'était juste centré sur les Égyptiens, et Dieu faisait une différence. Exode 9, premier verset. Donc c'est la cinquième plaie. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le Pharaon et dis-lui, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir et si tu le retiens encore, la main de l'Éternel sera sur ton cheptel qui est dans la campagne et sur les chevaux et les ânes et les chameaux et sur le gros et le petit bétail. Il y aura une peste très grave. Notez le verset 4. L'Éternel distinguera et fera une différence entre le cheptel d'Israël et le cheptel d'Égypte. Et donc rien ne périra de tout ce qui appartient aux Israélites. Et l'Éternel a fixé l'échéance en disant, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Donc l'Éternel fit ainsi dès le lendemain. Tout le cheptel de l'Égypte mourut, et il ne mourut pas de bête du cheptel des Israélites. Dieu fit une différence. Et il fera la même chose à la fin de cet âge. Il y a beaucoup de morts qui vont venir. Et vous allez décidément, définitivement, avoir besoin d'être proche de votre Dieu avant que ça commence. Verset 7, le Pharaon envoya prendre des informations et voici que pas une bête du cheptel d'Israël n'était morte. Mais le cœur du Pharaon s'endurcit et il ne laissa point partir le peuple. On peut voir toutes ces plaies, toutes ces histoires ici. Même si c'était difficile pour ceux qui étaient captifs, ils commençaient à voir la souffrance des Égyptiens. Et quand nous vivons à travers ces choses à la fin de cet âge, Dieu va commencer à faire une différence. Et nous commencerons à voir leur souffrance, mes frères, à la fin de cet âge. Parce que Dieu va offrir une protection à ceux qu'il a appelés à vivre dans un nouvel âge. Les 144 000 Ça n'a aucune importance pour eux s'ils vivent ou meurent, mais ceux qui sont appelés pour vivre dans un nouvel âge, Dieu devra les protéger comme il l'a fait à cette époque. Et Dieu devra faire une différence. Et j'espère que vous pouvez comprendre ce qui vous a été offert, ce temps incroyable sur la face de cette terre que nous vivons, que toute l'humanité sera conduite hors d'une Égypte spirituelle, hors d'Assyrie, hors de l'oppression, sortir des ténèbres. Un gouvernement juste sera établi sur la face de cette terre. Et tout le monde le verra. Toutes les religions de ce monde seront éliminées. Et juste, uniquement la vérité sera enseignée. Pour sûr, ça prendra du temps. Monsieur Armstrong disait que ça prendrait 5 ou 6 générations. Mais ça fera une grande différence. Ça créera une énorme différence dans la façon dont l'homme vit. L'homme apprendra la voie de la paix. Toutes les guerres auront disparu. La paix commencera à remplir cette terre. Donc j'espère que vous comprenez, mes frères, ceux qui ont été appelés à vivre dans un nouvel âge. Ça veut dire que l'oppression qui est aujourd'hui, ça ne veut pas dire que l'oppression qui est ici, que ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire des briques sans la paille, que ça ne va pas être difficile. Ce sera difficile. Mais il faut regarder sur l'horizon et rester proche de votre Dieu. Les choses les choses n'arrivent pas toujours de la façon dont nous les espérons. Comme avec Moïse et Aaron, la même chose. C'est pour ça qu'ils retournaient vers Dieu. Ça n'arrivait pas comme ils le pensaient. Mais ça arrivait exactement de la façon dont Dieu avait dit que ça allait arriver. Verset 8, la sixième plaie, les ulcères. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, prenez à pleine poignée de la suie de fourneau et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Et elle deviendra une poussière fine sur tout le pays d'Égypte et elle produira dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et sur les bêtes, les ulcères et des éruptions de pustules. Et ils prirent de la suie de fourneau. Et ils se tinrent devant le Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et les bêtes des ulcères avec une éruption de pustules. Et les magiciens ne purent se présenter devant Moïse, remarquez ce qui est dit, à cause des ulcères. Car les ulcères étaient sur les magiciens, comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et le Pharaon n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'Éternel avait dit à Moïse. Et alors l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Ne comprenez-vous pas que le Pharaon devenait, il devenait fatigué des choses qui se passaient, est-ce que Aaron et Moïse faisaient. Pouvez-vous imaginer la colère, le dégoût qu'il avait de voir Moïse? Ils nous détestent aussi, mes frères. Nous ne sommes pas les gens favoris de ce monde. Et Moïse et Aaron n'étaient pas non plus les gens favoris du Pharaon. Comme nous voyons et nous continuons à travers ces choses, nous voyons que Dieu va faire une différence alors que ces plaies ont lieu. Ainsi parle l'Éternel des dieux des Hébreux, laisse mon peuple partir afin qu'il me serve, car cette fois je vais envoyer toutes mes plaies contre ta personne, contre tes serviteurs, contre ton peuple, afin que tu reconnaisses que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Maintenant je vais étendre ma main, et si je t'avais frappé par la peste, toi et mon peuple, tu aurais disparu de la terre. Et il leur faisait savoir, c'est ce que Dieu faisait. Mais remarquez ce qu'il leur dit. Mais je t'ai laissé subsister, au contraire, dans cet objectif, afin de te faire voir ma force, pour que l'on publie mon nom par toute la terre. Vraiment des... pour que mon nom soit publié sur toute la terre. Pouvez-vous imaginer que Dieu utilisait Moïse, qu'il lui disait, qu'il l'utilisait, quelque chose d'extraordinaire, de puissant, que Dieu faisait? On peut imaginer la colère de Pharaon encore plus. Si tu fais encore obstacle à mon peuple, remarquez ce qu'il dit, et si tu ne laisses pas mon peuple partir, je ferai pleuvoir demain, à cette heure, une grêle si violente qu'il n'y en a pas eu de semblable en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à maintenant. C'est jamais arrivé avant. Ainsi, fais donc mettre en sûreté ton chapelet et tout ce qui est à toi dans la campagne. La grêle tombera sur tous les hommes, sur les bêtes, et trônant dans la campagne, ils n'auront pas à rassembler dans les maisons et ils mourront. C'est ce qu'il leur est dit. Remarquez verset 20. Ceux des serviteurs, quelque chose arrivait, quelque chose faisait une différence. Ceux des serviteurs du Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer en hâte dans les maisons leurs serviteurs et leurs cheptels. Mais ceux qui ne prirent pas à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs cheptels dans la campagne, dans les champs. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, les bêtes, et sur l'herbe des champs dans le pays d'Égypte. Et Moïse étendit son bâton vers le ciel, et l'Éternel envoya le tonnerre et la grêle, et le feu descendit. Et l'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il y eut de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était si violente qu'il n'y en avait pas de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe une combination. Énorme, réellement, ce qui s'est passé. Et nous savons, vous et moi, mes frères, que si Dieu ne nous délivre pas, et les gens de cette terre, il ne restera rien. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans la campagne, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. La grêle frappa aussi toute l'herbe et les champs. Verset 26, remarquez. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les Israélites, qu'il n'y eut pas de grêle. Dieu avait fait une différence. Et le Pharaon dit, appelez Moïse et Aaron et leur dit, cette fois, j'ai vu, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste et moi et mon peuple, nous avons tort. Intercédez auprès de l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre ni de grêle, je vous laisserai partir et l'on ne vous retiendra plus. Donc Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je tendrai mes mains vers l'Éternel, le tonnelle cessera et il n'y aura plus de grêle, afin que tu reconnaisses que la terre est à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi et le lin en fleurs. Le forment et les pauvres n'avaient pas été frappés parce qu'ils sont tardifs. Moïse sortit de chez Pharaon et hors de la ville. Il tendit ses mains vers l'Éternel, le tonnelle et la grêle cessèrent et la pluie ne se déversa plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et le tonnelle avaient cessé, continua de pécher, il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Donc le cœur de Pharaon était endurci, et il ne laissa pas partir les Israélites selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Et chapitre 10, premier verset, la huitième plaie, les sauterelles. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le Pharaon, car c'est moi qui ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est ainsi que pour que tu racontes à tes fils et aux fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait apparaître chez eux, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Et nous le remarquons aujourd'hui. Nous le disons à nos fils, les choses extraordinaires que l'Éternel a fait. Et il nous le dit pour que nous sachions qu'il y a un Dieu, qu'il est un grand Dieu, qu'il est un Dieu qui ne ment pas. Et il nous dit, il va délivrer son peuple juste comme il l'a fait au temps de Moïse, les enfants d'Israël. Et il dit pourquoi ça a été fait. Parce que ça dépeint une image pour vous et moi, alors que la fin de cet âge est venue. Dieu nous dit qu'il va faire une différence. Et si Dieu ne faisait pas d'une différence, ceux qui sont appelés, qui doivent aller dans le millénaire, rien ne resterait qui serait sauvé. Parce que l'homme s'anéantirait lui-même. Verset 3. Moïse et Aaron allèrent vers le Pharaon et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi ? Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Car si tu refuses de laisser partir mon peuple, demain je ferai venir des sauterelles sur ton territoire. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui subsiste, ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui poussent pour vous dans la campagne. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs, les maisons de tes Égyptiens, tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils ont existé sur le territoire jusqu'à ce jour. Ça allait devenir énorme. Et Moïse se retira de chez le Pharaon. Et le serviteur du Pharaon lui dit, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège ? Laisse partir ces gens pour qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne reconnais-tu pas encore que l'Égypte périt ? Et elle sera la même chose quand le plan de Dieu sera fini. » L'Égypte représente la sortie du péché, sortie de la captivité, sortie de la Syrie. Et quand Dieu et le plan de Dieu est finalisé, nous serons complètement libres de l'Égypte. Ils seront complètement réunifiés à ce Dieu de l'univers et son Fils Jésus-Christ. Et c'est une image merveilleuse. Et vous et moi, nous la vivons à la fin de cet âge. Et les enfants d'Israël vécurent cette chose durant leur temps, à leur époque. Et maintenant, c'est notre tour. Et nous le vivons. Et nous sommes persécutés. Et nous sommes en Assyrie. Et nous sommes en Égypte. Mais nous sortons de l'Égypte, juste comme c'est décrit. Nous sortons de l'oppression des Égyptiens et de la Syrie. Ne sais-tu pas, ne reconnais-tu pas que l'Égypte est détruite? Et quand on regarde dans la scène mondiale, ce n'est pas parce que ça n'est pas encore arrivé, mais ne savons-nous pas?
Nobody's just pushed the button yet, brother.
Que personne n'a encore pressé le bouton. Mais c'est comme si c'était fait.
We have so many nuclear weapons.
Nous avons tant d'armes nucléaires.
We're the strong.
Que si le bouton était pressé, si on appuyait sur le bouton, ce monde sera détruit.
We're destroyed now.
On pourrait le détruire en une minute. Comme l'Égypte a été détruite. L'Égypte a été détruite le premier moment que Moïse a lancé ses plaies. Et Dieu savait que ça arriverait à l'époque. C'était aussi bien que détruit. Et ce monde est comme détruit. Et Dieu dit qu'il allait détruire ce monde pour établir son royaume sur ce monde. Et juste le bouton n'a pas été encore poussé. On ne peut pas vraiment comprendre quel bouton a été poussé, pressé, appuyé. Mais quand on regarde en arrière, on peut toujours voir où on en est. Ne sais-tu pas, ne reconnais-tu pas que l'Égypte est détruite? Ne nous voyons-nous pas que ce monde est détruit, le monde de Satan? Ne savons-nous pas qu'il y a un peuple qui a été préparé pour vivre dans le millénaire, pour commencer un nouvel âge, un nouveau monde? Verset 8. Donc, il fit revenir Moïse et Aaron vers le Pharaon. « Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. » Quels sont ceux qui iront? Moïse répondit, « Nous irons avec nos jeunes gens et nos vieillards, et nous irons avec nos fils et nos filles, avec nos petits et notre gros bétail, car c'est pour nous une fête que nous devons garder pour l'Éternel. » Et il lui dit, « Que l'Éternel soit donc avec vous. » Tu vois, un peu, il le menace. Ça parle de Pharaon. Notez ce qu'il dit. Tu ferais bien que l'Éternel soit avec toi. Quand je vous laisserai partir, vous et vos enfants, prenez garde. Quand vous allez de l'avant, qu'un malheur vous tombe dessus. Mais non, pas cela. C'est ce qu'il lui dit. Allez, vous, les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez désiré. Et on les chassa de la présence du Pharaon. Ils ont été escortés assez sévèrement. Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur le pays d'Égypte, pour faire venir les sauterelles, et qu'elles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé, Donc Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'est sur le pays de toutes ces journées, cette journée et toute la nuit. Au matin, le vent d'est avait amené les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte et se posèrent dans tout le territoire de l'Égypte. C'était si grave qu'auparavant, il n'y en avait jamais eu tant de sauterelles. Il n'y avait plus et il n'y en avait jamais en eu autant par la suite. Il n'y a jamais eu un moment pareil. Elles couvrirent la surface de toute la terre, ainsi que la terre fut obscurcée, et elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres, tout ce qui était resté après la grêle, et il ne resta aucune verdure, aucun arbre, ni de l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Donc il parle de cette région. Donc, il parle de là où les plaies étaient répandues sur toute la terre de l'Égypte, la région. Et Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron. Il leur dit, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Intercédez auprès de l'Éternel, votre Dieu, afin qu'au moins il écarte de moi cette plaie mortelle. » Moïse sortit de chez le Pharaon, il intercéda auprès de l'Éternel, et l'Éternel fit souffler un vent d'ouest très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de l'Égypte. Mais l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et le Pharaon ne laissa point partir les Israélites. Verset 21, la neuvième plaie, les ténèbres. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres palpables. » Donc Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne voyait pas l'un l'autre, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. C'était aussi sombre que cela. Mais regardez, il y avait une différence qui était faite. Quelque part, mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Donc Dieu faisait une différence envers ceux qui allait être délivré. Il fera la même chose à la fin de cet âge. Le Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel. Vous ne laisserez sur place que votre petit et vos gros bétail, et vos enfants pourront aller avec vous. » Donc, maintenant, nous voyons, il est en train de changer un petit peu. Et Moïse dit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire des sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il n'en restera pas un sabot, car nous en prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu et jusqu'à ce que nous soyons arrivés là-bas. Nous ne savons pas ce que nous offrirons pour le culte de l'Éternel. Remarquez ce que Moïse dit. Même nous ne savons pas avec quoi nous devrons servir l'Éternel pour le culte de l'Éternel. C'est la même chose pour nous à la fin d'un âge. Nous vivons dans la vérité présence, mes frères. Dieu nous conduit de sabbat après sabbat, jour saint après jour saint. Et il y a toujours certains qui veulent plus que ce que Dieu ne nous donne. Dieu nous dit que c'est comme regarder à travers un verre obscur. Nous pouvons voir le plan de Dieu. C'est comme Moïse dit à Pharaon, au pharaon. Même nous, nous ne savons pas ce que nous devons faire. C'est ce que Moïse leur dit. Dieu lui dit comment le faire. Verset 27. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et le Pharaon ne voulut pas les laisser partir. Et le Pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi, garde-toi de revoir ma face. » C'est ce qui est dit, parce que il a scellé son destin. « Garde-toi de revoir ma face, car le jour où tu verras ma face, tu mourras. » Donc, c'est une menace assez puissante. Donc, le pharaon menace, si tu revois ma face, tu mourras. C'est ce qu'il dit à Moïse. Et voici ce que Moïse dit. « Tu as bien parlé, répliqua Moïse. Je ne reverrai plus ta face. » Et nous connaissons la fin de l'histoire. Et Moïse n'a jamais revu la face du Pharaon. Donc, les Exode 11, la mort des premiers-nés. La dixième plaie. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais envoyer une dernière plaie au Pharaon et à l'Égypte. Après quoi, il vous laissera partir d'ici. » Donc nous voyons que les choses ont changé, mes frères. Vous et moi, nous savons la fin de l'histoire. Et Moïse a dit, avait continuellement dit à ces gens au cours du temps, au temps de ces plaies, que Dieu allait les laisser partir. Les gens voyaient déjà que Dieu faisait une différence. Dans leur pensée, leur esprit, les choses changeaient concernant le pharaon. Donc, lorsque le pharaon enleva la paille pour faire les briques, et après quoi, les enfants d'Israël se voyaient offrir de la faveur, ce que nous voyons à travers ces plaies. Ils ont vécu à travers les premières, mais après les enfants d'Israël avaient de la faveur. Et il va faire la même chose à cette fin des temps. Retournons à l'histoire. Dieu dit à Moïse, il amènerait une plaie supplémentaire sur l'Égypte, après quoi il laissera partir les enfants d'Israël. Et quand enfin il vous laissera partir, il ira jusqu'à vous chasser d'ici. Regardez ce qu'il va lui dire. Il dit à Moïse quoi faire. Parle maintenant au peuple pour que chaque homme demande à son voisin et chaque femme à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. L'Éternel avait fait en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens au point que Moïse était... Regardez ce qu'il dit. C'était pas le cas au début. Ils voulaient crucifier Moïse au commencement. Mais maintenant, quelque chose avait changé. Quelque chose avait fait une différence à propos de Moïse. Vous voyez quoi? À la fin de cet âge, le peuple de Dieu va se tenir debout. À la fin de cet âge, il sera vu. Que Moïse était très respecté dans le pays d'Égypte. C'est une chose extraordinaire qui prit place. Notez. dans le pays d'Égypte et par les serviteurs du Pharaon et par le peuple. Et Moïse dit, « Voici ce qu'a dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je m'avancerai dans l'éternité du pays, et tous les premiers-nés vont mourir dans le pays d'Égypte. » Depuis le premier-né du Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui travaille au meule, et tous les premiers-nés du bétail. Et il y aura de grands cris dans tout le pays d'Égypte, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais plus. Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera. Dieu fera une différence. Il y en a beaucoup qui va arriver à la fin de cet âge. Une grande différence. Et Dieu devra faire une différence pour son peuple, ceux qui sont appelés à vivre dans le millénaire. C'est pas la même chose pour les 144 000. Peu importe qu'ils vivent ou qu'ils meurent, ils sont déjà scellés. Verset 7. Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera, ni contre un homme, ni contre une bête, afin que tu reconnaisses. Remarquez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Alors, tous tes serviteurs viendront se prosterner devant moi en disant, « Sors, va-t'en, toi et tout le peuple qui te suit. Après cela, je sortirai. » Parlant du Pharaon, quittant le Pharaon dans une ardeur de colère, il était en colère. Et vous savez quoi, à la fin de cet âge, Satan, juste comme Pharaon, Satan, il va être en colère, très en colère. Il y a un être d'esprit qui va être enchaîné pendant 1000 ans. Et juste comme le Pharaon a en fait rencontré sa destinée. Satan, comme Pharaon, va rencontrer son sort, en fait. Et alors nous serons libérés d'Assyrie, libérés d'Égypte, libérés du péché, juste comme l'image qui est dépeinte dans l'Exode, de sortir du péché. Vous voyez qu'il y a un être qui est appelé Satan. Et ça rassemble tout ce qu'il représente. Verset 9. L'Éternel dit à Moïse, « Le Pharaon ne vous écoutera pas afin que mes prodiges se multiplient dans le pays d'Égypte. » Donc Moïse et Aaron firent toutes ces prodiges devant le Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon qui ne laissa point partir les Israélites hors de son pays. Et nous connaissons l'histoire. Nous savons que la Pâque a été instituée. Nous connaissons l'histoire. Je ne vais pas parler de cette histoire. Nous sommes familiers avec cela. Mais à ce moment, par ce moment, les enfants d'Israël étaient obéissants à Moïse et à Dieu. Et après tout ce qu'ils avaient vu, ils obéissaient Dieu et ils mettaient le sang sur les linteaux de leurs portes. Nous allons faire la même chose à la fin de l'âge. Nous allons mettre le sang sur nos portes, symboliquement de notre Sauveur Jésus-Christ, pour nous délivrer. Nous délivrer de cet Égypte spirituel, ce péché, pour entrer dans une terre promise, un nouvel âge. Nous avons vu ce que Dieu a fait. Nous voyons comment Dieu nous a dit. Nous voyons toute la vérité, les 57 vérités qui a été données à l'Église de Dieu. Il y a eu des victimes au courant en chemin, mais nous savons, nous connaissons la fin de cette histoire. Nous savons que la Pâque a été instituée pour une image qui allait nous être donnée, un fils qui allait être né, le Fils de Dieu, qui viendrait et accomplir les Écritures à propos de la Pâque. Pour que vous et moi puissions être délivrés de l'Égypte spirituelle vers un monde nouveau, un moment extraordinaire, de redevenir unifié, réconcilié avec ce Dieu, le Dieu de cet univers. Nous connaissons le plan de Dieu. Et nous nous attendons maintenant à ce moment où Dieu va faire une différence à toute l'humanité. C'est quelque chose d'étonnant, de merveilleux, quand nous pensons à ce processus des pains agités durant cette fête, de la fête de la Pentecôte, et cette gerbe qui est agitée, qui représente Jésus-Christ. Quand les deux pains étaient agités dans les airs, qui représente cette délivrance des 144 000 pour faire une différence, d'entrer dans un nouvel âge à la fin de cet âge. Un gouvernement, un royaume, 144 000 êtres spirituels répandus sur cette terre. C'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu est en train de faire. Jésus a dit, il a fait une déclaration. Va-t-il trouver la foi lorsqu'il reviendra sur cette terre? Nous voyons qui nous sommes petits, tellement petits au milieu de ce monde. Nous pouvons comprendre pourquoi Jésus ferait une telle déclaration. Allons voir maintenant à Hébreux 11 et voyons ce qui a été la stabilité du peuple de Dieu au cours du temps. Et Dieu nous dit ce qui leur a permis de traverser toutes ces choses au cours du temps. Et ça va exiger la même chose pour nous dans ce que nous allons traverser. Certains ont aimé cette foi. Hébreux 11 et premier verset. Dieu nous dit, alors la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elles que les anciens ont reçu un bon témoignage. Parlant des gens de l'ancien temps, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. Et il le fait. Ça nous représente une image pour nous, sur laquelle la fin de cet âge est arrivée, c'est ce que ça fait. Et il continue à parler, bien qu'il soit mort depuis tout ce temps. Retourner à la poussière, la poussière à la poussière. Par la foi, Enoch fut enlevé de sorte qu'il ne vit pas la mort. On ne le trouva plus. Il a été enlevé dans un autre endroit afin qu'il ne soit pas tué. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Dieu l'enleva. Mais car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait Dieu. Or, sans foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une pieuse crainte. Il n'y avait pas une seule goutte de pluie qui était tombée à cette époque. Et il avait cru Dieu. C'est un peu la même chose à la fin de cet âge. Personne ne croit. Hein. Dieu, à moins en dehors de ceux qui ont été appelés de Dieu. Ils pensent qu'ils comprennent tout ce qui se passe dans ce monde. Ils pensent qu'ils peuvent faire face à ces choses et s'en occuper. Mais nous savons qu'ils ne peuvent pas en faire face ou s'en occuper. Nous savons que Dieu, s'il n'intervient pas, il ne resterait rien sur cette terre, personne vivant. Par la foi, Noé étant divinement averti de ce que nous ne voyons pas encore et saisi d'une pieuse crainte, comme nous, sachant que la fin est proche, que Jésus-Christ est sur le point de revenir sur cette terre, ainsi nous nous préparons pour le royaume de Dieu qui va venir sur cette terre. C'est par la foi que nous faisons ces choses, que nous les croyons, comme c'était pour eux. Étant averti de ce qu'ils ne voyaient pas encore et saisi d'une crainte pieuse, et si vous ne craignez pas, si vous n'avez pas cette crainte, vous n'avez pas la croyance de Dieu, alors je ne sais pas où est-ce que vous allez aller. Construisit un arche pour sauver sa famille, et par elle il condamna le monde, et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il a été averti par Dieu, il a cru Dieu. Et Abraham, on connaît l'histoire d'Abraham. C'est à propos de cet héritage, l'héritage des promesses. Une cité, une ville que nous attendons nous-mêmes aujourd'hui, la ville de la paix, la cité de la paix. Et il dit, verset
13,
et c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les promesses. Mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. C'est la même chose que nous avons aujourd'hui. Nous ne prenons pas notre place nulle part ici sur cette terre. On ne va pas bien ici. C'est comme si vous mettiez un bâton carré dans un trou rond. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie, comme vous et moi. C'est ce qu'on voit, ce qu'on sait, ce qu'on voit. Un nouveau monde, quand Jésus-Christ et Dieu seront là. Verset 16. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une ville, une cité. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, son fils unique qu'il offrait, qu'il avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Et il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Il était décidé à faire ce qui était demandé de faire. C'est une bonne analogie. Il savait que Dieu avait cette puissance de le ressusciter d'entre les morts. Par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü en vue de l'avenir. Et on va jusqu'au verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Ses parents avaient la foi de l'avoir et de le protéger, de le mettre dans l'eau. Parce qu'ils avaient vu. La bonne traduction dit qu'il avait. Il y avait un dessein dans sa vie. C'était dans leur esprit, dans leur tête, que Moïse était ce genre d'enfant, qu'il avait un dessein dans sa vie. Et ils ne craignaient pas l'édit du roi. C'est pourquoi ils firent ce qu'ils firent. Verset 24. C'est par la foi que, devenu grand Moïse, lorsqu'il est devenu grand, il refusa d'être appelé le fils de la famille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Moïse était élevé dans la maison du Pharaon. On peut dire que, comme on dit aujourd'hui, il avait une cuillère d'argent dans la bouche. Tous les plaisirs des hommes au bout de ses doigts. Il a choisi un différent chemin. Et Dieu dit, il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Estimant en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse, quelque chose qu'il savait à propos du plan de Dieu, savait qu'un sauveur allait venir. Il savait qu'il allait souffrir. Il estimait le maltraitement de Christ hautement. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la reproche, la jouissance éphémère du péché. Il estimait. Par la foi, il quitta l'Égypte, ne craignant pas la fureur du roi, car il tint ferme, comme voyant celui qui était invisible. Par la foi, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang. Il croyait Dieu. Il vit à travers ce buisson brûlant et ce bâton qui se changea en un serpent et tous les signes qu'il avait fait devant le peuple. Que Moïse avait la foi que Dieu ferait ce qu'il ferait. Il dit, par la foi, il garda la Pâque, l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israéliens. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge, comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi. C'est par la foi qu'ils ont vaincu. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est la même chose à la fin d'un âge pour vous et moi. Jésus dit, est-ce qu'il trouvera de la foi quand il viendra? Et je peux vous dire que c'est le seul endroit où on peut trouver de la foi aujourd'hui, dans sa vraie Église. Donc j'espère, mes frères, que vous comprenez où Dieu travaille aujourd'hui. J'espère que vous comprenez où Dieu vous conduit pour vous préparer pour le royaume de Dieu qui vient sur cette terre juste dans très peu de temps. C'est comme regarder à travers un verre obscurci, comme ce que Moïse a dit au Pharaon. Il faut attendre de Dieu pour qu'il nous montre quoi faire. Ils ont pris le sacrifice. Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont été là où Dieu leur a dit d'aller. Et ils ont fait ce que Dieu leur a dit de faire. Tous les animaux pour faire les sacrifices. Mais ils ne savaient pas comment. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Et ils ont fait face à ces choses et s'en sont occupés comme nous aujourd'hui, avec la vérité présente. Dieu leur disait quoi faire alors qu'ils avançaient. Il leur donnait petit à petit, commençant avec la Pâque. Donc, mes frères, c'est une chose extraordinaire qui vous a été donnée. Prenez soin de comment vous traitez le sang et le sacrifice de Jésus, de façon à ce que vous pouvez entrer dans un nouvel âge.